Radio Okapi.
Inhumation ce vendredi à Bukavu de 8 élèves ainsi que de leur chauffeur de bus fauché par un camion mardi. Les funérailles ont été prises en charge par l'État congolais. Poursuite des affrontements ce vendredi dans le Rutshuru entre les FRDC et le M23. Les combats seraient concentrés à Rutsiro, Damuginga et Nyabikona dans le groupement Bweza, territoire de Rutshuru. Le professeur André Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, est l'invité de ce journal. Il va s'exprimer sur la diplomatie parlementaire contre l'agression rwandaise, mais aussi sur le rejet par l'Assemblée nationale de l'accord de coopération avec l'Ouganda. Bonsoir à tous. Inhumation ce vendredi 1er juillet de 8 écoliers et leur chauffeur de bus décédés le mardi 28 juin dans un accident de circulation à Bukavu. Bien avant la mise en terre, une messe de requiem a été dite en leur mémoire en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu. Les funérailles ont été prises en charge totalement par l'État congolais. Emmanuel Elamejio Akabedi, reportage.
Désormais, ces écoliers et leurs chauffeurs reposent au cimetière de Ruzizi en commune du Banda. Leurs funérailles se sont déroulées sous une forte émotion de leurs parents, enseignants et camarades d'école. Dans l'oraison funèbre, en la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu, le parlement des enfants de l'école SOS Village d'Enfants dit ceci.
Nous étions ensemble la journée du 28 juin 2022 et personne ne pouvait s'imaginer ni s'attendre à ce triste sort. Vous étiez très sympathique et charmant tout au long de notre parcours scolaire et voilà, la mort est imprévisible. Vous nous précédez en ces jours, intercédez pour nous auprès Père afin que votre brusque disparition affermisse notre foi et nous donne du courage et la vaillance dans notre vie. Que vos âmes reposent en paix.
Ces 5 garçons et 3 fillettes ainsi que leur chauffeur du bus scolaire ont péri mardi 28 juin dernier dans un accident de circulation à Kadutu. Jusqu'en ce moment, les chauffeurs du camion qui les a écrasés demeurent introuvables. Emmanuel Elamejo Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
Dans la province voisine, le Nord Kivu, des combats entre les FARDC et le M23 se sont poursuivis ce vendredi dans le groupement Bweza, territoire de Rutshuru. Il serait concentré à Rutsiro, Nyamugenga et Nyabikona depuis 2 heures locales. Les sources coutumières à Rutshuru Centre affirment que des bombardements et des tirs à l'arme lourde ciblent certaines zones stratégiques occupées par les rebelles. Selon ces sources, l'armée aurait gagné d'autres espaces sur le terrain à l'issue des opérations offensives menées depuis mercredi et jeudi dans le Bweza et Djomba. Le porte-parole des opérations Sokola 2 revient ici sur le bilan de ces opérations. Le lieutenant-colonel Guillaume Djikekaiko est au micro de Denis Lukeso.
Dans la nuit du jeudi 30 juin au vendredi 1er juillet, les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé des offensives de grande envergure à profondeur des Tamugenga contre l'M23 et leurs alliés du Rwanda. L'objectif pour les forces armées de la République démocratique du Congo, c'était de sécuriser la cité des Tamugenga, chose qui a été faite. Comme bilan lors de ces opérations, d'abord, l'ennemi a été mis en débandade et nous avons noté 27 neutralisés du côté armée rwandaise et M23. Des armes ont été récupérées sur l'ennemi par l'armée loyaliste, et notamment 5 armes de type AK-47, un RPG-7, mais aussi de produits pharmaceutiques, une radio Motorola, des casques et plusieurs autres effets militaires made in Rwanda ont été récupérés par l'armée loyaliste. Bilan côté ami, des dévoyants militaires de forces armées de la République démocratique du Congo ont été blessés et qui ont été tout de suite pris en charge par nos services spécialisés. Voilà au moins ce que pouvait retenir. Donc la cité des Tamugenga est bel et bien sécurisée et c'était l'objectif à atteindre.
La poursuite des hostilités risque encore une fois de retarder l'acheminement de l'aide humanitaire prévue cette semaine pour environ 10 000 personnes vulnérables à Tamugenga dans le groupement Bweza. C'est ce que déplore la coordination de l'aide humanitaire. Ocha parle de plus de 170 000 nouvelles personnes déplacées dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo qui ont besoin de l'aide humanitaire. Le coordonnateur humanitaire demande à qui de droit d'accorder l'accès aux humanitaires sans condition pour sauver des vies et soulager les souffrances des personnes en besoin d'assistance. D'autres détails avec Denise Lukeso.
Au moins 17 000 nouvelles personnes déplacées sont arrivées depuis mars dernier dans les agglomérations de Rutshuru Centre et la cité de Kiwanja. Elles proviennent des zones de combat entre FARDC et les rebelles du M23. Elles sont logées dans des écoles, des stades et d'autres espaces collectifs ou dans des familles d'accueil. Ces personnes vulnérables vivent dans des conditions alimentaires et sanitaires difficiles, disent les humanitaires. On signale l'arrivée d'autres déplacés à Kako, Rubare et Kalengira. 3530 autres ménages des groupements Kisigari, Djomba et Bouéza arrivés il y a environ une semaine, se sont installés dans des écoles, églises et autres lieux publics à Kanyaruchinya. Ces personnes vivent dans une forte promiscuité, pas d'eau, pas de nourriture, ni des installations sanitaires. Elles parlent d'un véritable calvaire. 11 000 civils environ, pris entre deux feux et n'ont pas pu fuir lors des combats du 28 juin dernier dans les villages de Rutshuru et Ntamugenga, rapporte Ocha. La communauté humanitaire déplore le fait que les interventions humanitaires soient entravées par la persistance des violences dans les territoires de Rutshuru. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Et puis, les armées ougandaises et congolaises bombardent depuis ce vendredi les bastions que les ADF ont constitués récemment entre la localité de Kamango et la rivière Semuliki sur l'axe Beni-Kassindi dans le territoire de Beni. Selon des usagers de cette route, des fortes détonations ont été entendues tôt ce vendredi matin. À en croire des sources proches de la coordination des opérations conjointes UPDF-FRDC, ces pilonnages qui se déroulent dans la chefferie de Watalinga s'inscrivent dans le cadre de la troisième phase des opérations lancées fin novembre dernier contre les rebelles ADF. Les mêmes sources font savoir que l'objectif est de déstabiliser ces sources ADF dans leur nouveau bastion où ils tentent de se réorganiser ces dernières semaines. Pour l'instant, aucun bilan n'a été avancé. Toujours au nord Kivu, à Beni, le mouvement citoyen Lutte pour les changements a lancé un appel de prise de conscience à la population congolaise à l'occasion de la célébration des 62 ans d'indépendance de la RDC. Avec des images de tristes mémoires des différents massacres de Beni, ces jeunes ont encerclé le rond-point de l'indépendance juste tard dans la nuit en allumant des bougies en mémoire des illustres disparus du terrorisme dans la région. Ils ont aussi profité de l'occasion pour encourager l'armée à mieux faire son travail de défendre l'intégrité du territoire. Chabani Losuiri, membre de Lucha, est au micro de Marc Marofimbo.
À une population qui est meurtrie, à une population qui fait face à des affreuses situations comme celle dont nous vivons présentement, c'est vraiment réfléchi que cette population prenne conscience, qu'elle comprenne que, en quelque sorte, les gens qui nous servent d'autorité s'intéressent moins à nos problèmes. Nous, la recherche de la solution et à toute franchise doit aussi incomber à cette population. C'est une charge que nous partageons pour espérer à finir avec ces calvaires. La Lucha ne va pas remettre à cause les efforts de notre armée parce que cette armée, elle a ce qui est sûr, un certain nationalisme. Parce que dans l'armée, il y a ceux qui viennent de partout pour venir défendre ce pays, surtout dans la région où nous on était nés et on grandit. Mais elle a aussi l'obligation de faire mieux, surtout que à l'ère où nous sommes, le calvaire n'a pas encore fini complètement.
Dans la même province, installation officielle ce vendredi du chef légitime de la chefferie de Bukumu par le gouverneur de province Constant Ndima. Kakungu Bigaruka règne au trône de cette chefferie après 27 ans de conflits coutumiers qui rongent cette entité. C'est à la grande satisfaction de la population et des chefs coutumiers qui ont assisté à la cérémonie. Ils disent fonder leur espoir sur la venue de ce chef pour résoudre plusieurs conflits divers que connaît la chefferie depuis plus de deux décennies. Denis Lukeso, reportage.
L'installation du Mwami Bakungu Lebon va résoudre beaucoup des problèmes que connaît la chefferie de Bukumu, espèrent les habitants de Niragongo, Mambo Kawaya.
Nous avons plus de 35 villages qui sont en conflit de pouvoir coutumier. Tout ça, un intérimaire ne pouvait pas résoudre un conflit de pouvoir coutumier. Et si les 7 groupements, nous avons à peu près 4 groupements qui sont en conflit. Il y a tant de tueries qui sont dues au règlement des comptes. La population ici, elle est déchirée. Certains leaders qui exploitaient ces conflits comme leur argument.
Beaucoup de défis, notamment au plan sécuritaire, social et développement attendent ses chefs. Placide Nzilamba, secrétaire technique de la société civile provinciale, parlait des priorités auxquelles les Mwami Bakungu Lebon devaient s'y pencher en premier.
Il commence d'abord par asseoir le pouvoir coutumier jusqu'à la base. C'est la priorité parce que même des villages de notabilité sont gérés par des usurpateurs. En deuxième lieu, il devait procéder à la réouverture des routes de dessertes agricoles. Traiter aussi le problème des conflits fonciers qui font même des morts ici en territoire de Nyiragongo.
Rappelons que c'est depuis 1995 que la chefferie de Bakoumou est dirigée par des intérimaires. Tout en remerciant le gouverneur des provinces, la société civile lui demande de poursuivre avec la résolution de tous les conflits coutumiers que connaît le Nord Kivu. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Insuffisance de contrôle et persistance de la fraude dans le secteur minier. Aucun négociant congolais ne peut vendre ses minerais auprès d'une entité de traitement sans l'intermédiaire d'un sujet chinois. Politisation du secteur minier artisanal. C'est les tableaux que présente le secteur minier artisanal dans la province du Lualaba. La société civile de cette province l'a fait savoir ce vendredi ici à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Shadrack Moukad, porte-parole de cette structure, recommande au gouvernement, entre autres, l'opérationnalisation de l'entreprise générale du cobalt et le retrait des sujets chinois des zones d'exploitation artisanale. Shadrack Moukad Mouai le dit à Paul Matendo.
En vue d'apporter des solutions durables dans ce secteur, la société civile du Lualaba plaide pour la dépolitisation du secteur minier artisanal, le retrait de tous les expatriés dans les sites d'exploitation artisanale, la découverture des zones d'exploitation artisanale qui existent au profit des creuseurs et par-dessus tout, l'opérationnalisation de l'entreprise générale du cobalt. L'entreprise générale du cobalt a été créée par le gouvernement de la République pour la sauvegarde des activités relatives aux substances minérales stratégiques d'exploitation artisanale. Elle est pour nous une solution congolaise pour la maîtrise, la formalisation de la production du cobalt d'origine artisanale et la promotion de l'émergence des exploitants. C'est pourquoi il revient au gouvernement congolais de poser des actes concrets prouvant son souci réel de la recherche de solutions durables aux problèmes qui minent le secteur minier artisanal en RDC.
Eko Lumumba, c'est le thème d'une exposition pluridisciplinaire d'œuvres d'art qui a démarré hier jeudi 30 juin et ira jusqu'à la fin du mois de janvier 2023 au Musée des Arts Contemporains et Multimédia situé dans l'enceinte de l'échangeur de Limété. Cette expo accueille 43 œuvres de peinture, sculpture et performance réalisées par 23 artistes sous la direction de l'artiste peintre Franck Dikisongele, coordonnateur de la plateforme culturelle RD Congo. Eko Lumumba, comme son titre l'indique, cette expo s'inscrit dans le cadre des activités d'hommage à Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC assassiné il y a 61 ans et dont la relique a été enterrée ce même jeudi dans le mausolée construit dans l'enceinte de l'échangeur de Limité. Le peintre Franck Dikisongele parle du contenu de cette exposition au micro de Jean-Marc Matouaki.
Eh bien, l'on ne donnera pas Lumumba seulement simple figure Lumumba photo. Non, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons donner à travers cette exposition comme un chiasme, comme un alibi en ce qui concerne le pays, le Congo, l'Afrique, que chacun puisse donner l'image qu'il avait de Lumumba après l'avoir entendu, après avoir entendu parler de Lumumba, de ce qu'il a fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire Lumumba a impacté le monde. Mais s'il a impacté le monde, à partir de quel âge? Et si c'est à partir de cet âge, qui est-ce qui était le soubassement de ses pensées? C'était culturel. Donc pour qu'un peuple soit fort, mûr, il faudrait d'abord que culturellement qu'il ait des bases.
Avant de retrouver l'actualité internationale, rendons-nous dans la province du Maniema où nous nous intéressons au métier des artistes coiffeurs. Ils sont visiblement nombreux dans les quartiers résidentiels et populaires ainsi qu'au centre-ville. Selon certains témoignages, ce métier qui fait vivre des familles semble cependant négligé par plusieurs personnes et par les coiffeurs eux-mêmes qui les considèrent comme un passe-temps. Pour valoriser ce domaine, la Fondation David Ngongo Lumbulé, j'y arrive, organise un championnat urbain où 57 coiffeurs de Kindu ont été sélectionnés pour participer à cette compétition. Florence Kizalunga, reportage.
Il est vrai que le métier de coiffure fait vivre des familles comme on ne peut l'imaginer. Mawazo Boniface, marié et père de 4 enfants, les témoigne.
Ce travail m'aide beaucoup pour rehausser ma vie parce que jusque-là, j'ai continué à mieux vivre et à travers ce travail, m'a donné même le courage de marier et d'avoir ces 4 enfants. Et ce métier de la coiffure me permet vraiment à faire presque toutes choses dans la vie.
Malgré ça, le président de l'association des coiffeurs du Maniema affirme qu'ils éprouvent des difficultés pour bien travailler. travailler. Hussein Kitenge.
Pour nous permettre de bien travailler, comme notre revenu est faible, nous demandons au gouvernement de réduire les taxes, car le métier de coiffure réduit le chômage dans la province du Maniema.
Cherchant à les valoriser, la Fondation David Ngongo Lumbulé va primer les meilleurs coiffeurs. On écoute les 7 et David Ngongo, son promoteur.
Je suis en train de vouloir dire à la face du monde que le métier de coiffure, c'est un métier. Parce que les demandeurs de ce service sont en train de minimiser ce métier-là. Nous sommes appelés à considérer les artistes coiffeurs comme les teneurs de l'emploi.
Kindo, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'étau se resserre autour du géant français de la boisson Castel. Une enquête préliminaire a été ouverte mercredi 29 juin à Paris contre le groupe accusé depuis l'an dernier de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en République centrafricaine. Des accusations nées d'un rapport de l'ONG de Centri qui accuse Castel d'avoir passé des accords avec un groupe rebelle centrafricain afin de protéger ses infrastructures en échange d'une aide logistique.
L'invité.
Notre invité est André Mbata, professeur de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa et de Johannesburg et premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il s'exprime sur la diplomatie parlementaire contre l'agression rwandaise, mais aussi sur le rejet par l'Assemblée nationale de l'accord de coopération avec l'Ouganda, suite, selon lui, à sa complicité avec le Rwanda. André Mbata annonce également les refus de la RDC de participer à l'Assemblée parlementaire francophone qui aura lieu en juillet à Kigali. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale est au micro de Michel Kifindangoy.
Professeur Mbata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de retour du Maroc où une décision importante a été annoncée du Parlement congolais qui suspend sa participation à l'Assemblée parlementaire francophone qui aura lieu à Kigali. Qu'est-ce qui a motivé cette décision aussi extrême?
Je dois d'abord vous remercier de l'occasion que vous m'offrez. Bien sûr que je reviens de Rabat au Maroc où j'étais envoyé au nom du Parlement par l'honorable Christophe Mboso Kodiapoanga à la 28e Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique. Il était donc crucial que la voix de la RDC à travers son parlement puisse se faire entendre. J'ai effectivement transmis le message. Nous sommes le plus grand pays francophone. Donc l'APF ne peut pas se réunir sans nous. Et à cette occasion, nous avons dit que nous sommes victimes d'une agression. Et c'est clair, cette agression est de la part du Rwanda. C'est une énième agression. Et nous avons demandé qu'on puisse condamner le Rwanda, que le Rwanda devait récupérer ses marionnettes du M23. Et comme la 47e session de l'APF doit se réunir à Kigali du 5, je crois, au 10 juillet. Nous n'y participerons pas. Pour autant que Kigali, le Rwanda, continue à nous agresser.
Effectivement, vous parlez de l'agression rwandaise, mais la dernière réunion des chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est n'a pas fait allusion à l'agression rwandaise. Vous ne trouvez pas que la position de la RDC pour le moment n'est pas suffisamment portée par les voisins?
L'Assemblée nationale représente la nation. À Nairobi, notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, était clair là-dessus. Mais les gens doivent comprendre que quand il faut signer un communiqué, il faut que tous ces chefs d'État la signent, sinon ils ne signeraient pas. C'est ce qui explique le langage diplomatique. Mais nous sommes le Parlement congolais, en harmonie d'ailleurs avec le chef de l'État. Notre peuple est agressé. Que peut être la voix d'un Parlement des représentants de la nation? C'est condamné. Il ne sera plus question. Vous avez vu des militaires rwandais envahir le territoire national. C'est le M23 qui est utilisé par Kigali, et vous le savez, beaucoup le savent. Nous devons condamner. Et c'est la première fois, je crois, que vous en souviendrez, nous citons clairement les adversaires.
Les chefs d'État à Nairobi se sont mis d'accord pour le déploiement d'une force régionale neutre pour traquer les forces négatives en RDC. Ça ne sera pas la première force constituée des armées étrangères. N'est-ce pas une naïveté, une fois de plus, du gouvernement congolais d'accepter que les forces étrangères viennent travailler en lieu et place des FARDC?
Non, mais écoutez, ce n'est pas une naïveté. Nous aurions également pu demander à la SADC. Nous pouvons également demander à la CIAC dont nous sommes membres. Donc ce n'est pas une naïveté, ça relève des compétences de ces organisations internationales. Mais ce qui est clair, c'est quoi? Nous autres Congolais, les autres ne viendront pas travailler à notre place. Et le chef de l'État l'a dit, nous allons renforcer notre armée. Nous n'attendons pas l'entrée de la force régionale. Mais notre armée est en train de se réorganiser. Nous devons nous battre. Au moment où les reliques du héros national, Patrice Emery Lumumba, sont dans le pays, ça doit interpeller le commun des Congolais. C'est-à-dire, nous sommes une nation forte. ce debout congolais, debout contre l'agression. J'espère de ma part que ces reliques de Lumumba qui sont passées à travers le pays, en fin de compte, nous ramènent le message du 30 juin. Nous avons hérité de l'un des plus beaux pays de la planète. Et la libération de ce pays, elle ne nous viendra pas des forces régionales et étrangères. Elle viendra d'abord de nous-mêmes. Et le président Félix Tshisekedi est constant là-dessus. Et nous en sommes constants. Nous allons nous battre. Et d'autres ne seront que des forces d'appoint.
L'Ouganda, vous l'avez dit au cours d'une plénière, qui est aussi complice de l'agression rwandaise. Et en même temps, l'armée ougandaise mène des opérations conjointes avec les FARDC. L'opinion se demande, est-ce que la même armée qui nous agresse viendra pour chercher la paix dans notre pays? Comment vous comptez résoudre cette énigme?
Bon, nous pensons que l'Ouganda a suivi le message. C'est par cette porte-là que le M23 est entré. Et pour nous, entre amis, ça c'est un acte de trahison. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons refusé, nous, Assemblée nationale, de ratifier un accord avec l'Ouganda. C'est pour dire que cette Assemblée nationale, ce n'est pas le type d'Assemblée que vous avez vu dans le passé. Nous allons nous battre pour le peuple congolais. En tant que représentants du peuple, nous n'avons pas demandé l'avis de l'exécutif. Nous avons refusé de ratifier l'accord avec l'Ouganda et je crois que cela va lui servir de leçon et de se comporter en conséquence. Nous allons prévoir des moyens plus consistants pour notre armée, pour nos forces de défense et de sécurité.
Professeur André Mbata, je vous remercie.
Je remercie Radio Okapi pour cette occasion que vous m'avez donnée de communiquer indirectement avec notre peuple.
Le professeur André Mbata sera l'invité de grande interview à suivre demain, samedi 2 et dimanche 3 juillet 2022 à 10h05, heure de Kinshasa. Et c'est par ici que prend fin ce journal, coordonné par Alain Irung et Noëlla Luzitu, mis en onde par Alain Goy. Et à la présentation, c'était Jocelyne Moussa-Pondé. Merci de nous avoir suivis.